Vous êtes sur RTL. RTL Matin, Yves Calvi.
Le journal avec Dominique Tenza. Bonjour Dominique.
Bonjour Yves et bonjour à tous.
Et à la une, notre enquête RTL sur ces boîtes de nuit clandestines qui s'organisent un peu partout dans Paris.
Nous nous sommes invités dans l'une d'entre elles. DJ, barman, tout y est. Un seul détail, c'est illégal. Les tensions autour de l'Ukraine et le spectre d'un conflit mondial, les États-Unis ont placé en alerte hier des milliers de leurs soldats. À suivre également, ces Français qui traversent la frontière pour aller exercer au Luxembourg. Ce couple d'infirmiers a doublé son salaire. Reportage à suivre. Et puis, l'énorme succès de la Switch, la console de Nintendo, vient de dépasser les 6 millions d'exemplaires vendus chez nous en France. Un foyer sur 5 en est aujourd'hui équipé.
Dès la fin de ce journal, le surf de l'info avec Cyprien Signy.
À la découverte du podcast personnel de Valérie Pécresse.
Tiens. À 8h20, notre débat du jour. Faut-il supprimer la liberté d'installation des médecins afin de lutter contre les déserts médicaux? Face à face, un député pour la suppression et puis le président de la Confédération des syndicats médicaux français. Et puis juste après 8h30, France 2022, Emmanuel Macron en déplacement à la campagne. Est-il déjà en campagne? Nous interrogerons nos spécialistes maison.
RTL Matin.
Fermé car considéré comme vecteur de transmission du virus. Les discothèques devraient, le conditionnel s'impose, devraient retrouver leur public dans 3 semaines selon le calendrier établi par le gouvernement. En théorie donc, toute soirée est pour l'instant interdite. Eh bien c'est ce qu'a voulu vérifier RTL alors que les réseaux sociaux se font régulièrement l'écho de soirées clandestines. Julie Brault, c'est vous qui êtes à l'origine de cette enquête et vos recherches vous ont mené jusque dans une petite rue du centre de la capitale.
Oui, à 1h du matin, sur le trottoir d'une rue étroite, une dizaine de personnes font la queue devant une porte qui ressemble à celle d'un immeuble tout à fait comme les autres. Ici, il y a beaucoup d'habitués des boîtes de nuit clandestines.
Le DJ, l'organisateur, j'ai déjà été à ces soirées. Voilà. On sort beaucoup, donc on a forcément un réseau. Et il y a des annonces, il y a de la com qui se fait sur les soirées.
Pour les clients non habitués, il faut payer une bouteille d'alcool à 300€ pour entrer. À l'intérieur, près de 200 personnes dansent sous les faisceaux des projecteurs rouges. Bar, DJ, serveur, fumoir, tout y est, exactement comme dans une boîte de nuit. Les fêtards ont entre 25 et 30 ans et parmi eux, j'ai croisé une médecin.
Je suis médecin, oui, voilà, du lundi au jeudi et puis vendredi, dimanche, pour moi, c'est week-end.
Du coup, tu sors?
Bah oui, évidemment, j'ai quand même un attitude et je suis humain, oui.
Ici, le pass sanitaire et le masque ne sont pas requis, personne ne respecte les gestes barrières et pourtant, ce type de soirée s'organise un peu partout dans Paris.
On n'a jamais arrêté pendant le confinement, il y avait plein de soirées. Hein. Et c'était depuis le premier confinement, ça n'a pas arrêté. Et on a toujours eu.
Contactée par RTL, la préfecture de police de Paris affirme pourtant être vigilante à propos des soirées clandestines et intervenir quand elle a l'information.
Enquête RTL signée Julie Brault. La fille de Jean-Luc Lahaye, à son tour mise en examen pour subornation de témoins. Elle est soupçonnée d'avoir fait pression sur les victimes présumées de son père, accusé lui de viol sur mineur. Les mères de 2 jeunes femmes qui portent plainte contre Jean-Luc Lahaye seront également entendues cette semaine. Elles sont soupçonnées, elles, d'avoir livré leur fille au chanteur, voire même pour l'une d'entre elles, d'avoir filmé les ébats.
Il est 8h04. Peut-on encore éviter la guerre en Ukraine et le basculement dans un conflit mondial? La situation se tend en tout cas chaque jour un peu plus.
Hein. Et le vocabulaire employé devient d'heure en heure de plus en plus martial. Bonjour Bénédicte Tassard.
Bonjour.
Chef du service étranger. On va tenter de comprendre avec vous ce matin où nous en sommes. Les États-Unis mettent en garde contre une invasion russe de l'Ukraine à tout moment et viennent de placer 8500 militaires en état d'alerte. Qu'est-ce que cela signifie?
Eh bien, ces militaires sont prêts à consolider la force de réaction rapide de l'OTAN qui compte déjà 40 000 soldats. Mais aucune décision de déploiement pour l'instant, précise le Pentagone. Hier soir, au cours d'une visioconférence entre Joe Biden et les Européens, ces derniers ont été quelque peu surpris par cette montée en pression. Le président américain a choisi l'option de renverser le rapport de force le jour où la Russie annonçait de son côté le déploiement de 20 navires en mer Baltique.
Et au milieu, il y a l'Europe qui cherche, elle, plutôt à calmer le jeu et ne désespère pas de convaincre Vladimir Poutine.
Oui, les Européens sont d'accord pour préparer la riposte, mais sans escroquerie. Clandre et ses troupes américaines pourraient fâcher Vladimir Poutine. Calmons le jeu, réclamait hier le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell.
Nous, on sait très bien quelles sont les menaces et on sait très bien de la façon qu'il faut réagir. Il faut rester tranquille en faisant ce qu'il faut faire, mais en évitant une crise de nerfs.
Même discours du côté d'Emmanuel Macron, qui participait hier soir à cette visioconférence avec Joe Biden. Il faut proposer un chemin de désescalade à Vladimir Poutine. Le chef de l'État qui va discuter d'ici quelques jours avec le chef du Kremlin.
Merci Bénédicte Tassard. Et puis toujours à l'étranger, au Cameroun, cette bousculade mortelle hier devant le stade de Yaoundé. Au moins 8 morts et des dizaines de blessés en marge d'un match de l'équipe nationale contre les Comores. Match de la Coupe d'Afrique des Nations remporté 2-1 par le Cameroun.
8h06, c'est notre nouveau rendez-vous à 8h chaque matin jusqu'à la présidentielle. RTL vous propose donc une série de reportages déclinés tout au long de la semaine.
Et qui permet, à moins de 3 mois du scrutin, de mieux cerner vos préoccupations. Depuis hier, nous partons à la rencontre de ces Français qui ont choisi de s'établir près des frontières de notre pays de manière à pouvoir les traverser plus facilement. C'est le cas de Florian et de Thibault, installés en Lorraine, et qui, comme 100 000 Français chaque jour, se rendent au Luxembourg dans la perspective de gonfler leur salaire. C'est un reportage signé Dimitri Ramelot.
Premier étage de cette maison cossue dans la campagne lorraine à 5 minutes en voiture de la frontière franco-luxembourgeoise. Florian et Thibault, infirmiers salariés de 35 et 39 ans, vivent ici depuis un an et leur départ de Nancy pour travailler au Luxembourg.
On gagnait à peu près pour le couple, 3 000 euros. Là aujourd'hui, on gagne chacun 3 000 euros, plus du double, c'est astronomique.
L'élément déclencheur, ça a été quand il a fallu demander de l'argent à nos proches pour payer la crèche.
Et la décision de démissionner en pleine crise sanitaire est aussi motivée par ses soignants par les conditions de travail en France.
Pour un secteur de 20 patients, vous êtes un minimum 3 infirmiers au Luxembourg, vous êtes tout seul en France.
Et ses parents de deux enfants de 2 et 5 ans savaient que les salaires pour 40 heures étaient plus élevés au Grand-Duché, mais pas de tel niveau.
On ne dépense pas plus. Certes, on va se faire un petit peu plus plaisir parce qu'on a les moyens. Sortir au resto, partir en vacances.
Pourtant, à 15 km de là, toujours côté français, Geoffrey, 45 ans, bouché pendant 21 ans au Grand-Duché à 3 000 euros net par mois, a voulu revenir pour des raisons personnelles.
J'ai déposé mon CV à Pôle emploi. Dans la journée, j'avais une proposition de supermarché en France.
Et le patron s'aligne immédiatement sur son salaire luxembourgeois. Fini les bouchons pour aller travailler, des horaires fixes et tous les midis avec ses 4 enfants.
Je gagne autant en travaillant moins. Et pour moi, c'est l'Eldorado français. Voilà. Personne dans la restauration, c'est métier de bouche, ça se perd. Donc les patrons français voient bien qu'il faut de la main-d'œuvre qui tienne la route. Bah, ils s'alignent au niveau du salaire.
Et si grâce à leur changement de vie, Florian et Thibault ont pu s'acheter le van de leur rêve à 40 000 euros, la nouvelle situation de Geoffrey a permis à sa femme d'arrêter de travailler pour s'occuper des enfants.
Un reportage signé Dimitri Ramelot. Demain, le dilemme des Français installés tout près, eux, de la frontière allemande, mais qui, faute de maîtriser la langue de Goethe, ne peuvent pas y travailler. La hausse sans fin des prix du carburant, 1,65€ désormais le litre de gasoil à la pompe, 1,70€ pour le sans-plomb. Le gouvernement réfléchit à de nouvelles aides pour aider notamment les gros conducteurs les plus impactés en jouant sur le barème des frais kilométriques que les contribuables déclarent chaque année.
8h08, Emmanuel Macron poursuit son déplacement sur les routes du Limousin. Il était hier dans la Creuse, il sera aujourd'hui en Haute-Vienne, soucieux de casser son image de président des villes.
Le chef de l'État à la campagne pour aborder notamment les sujets de désertification, les zones blanches, l'isolement qui touche le monde rural, à la campagne donc, mais pas encore en campagne, du moins pas officiellement. Pourtant, Vincent Derosier, tout est quasiment prêt, vous nous le confirmez ce matin.
Oui, et l'impatience gagne. On a les clés sur le contact, on n'attend plus que le pilote s'enflamme un proche du président. En attendant Emmanuel Macron, c'est le secrétaire général de l'Élysée, Alexis Kohler, qui anime des réunions de campagne tous les mercredis soirs. Pour éviter le mélange des genres, ça se passe dans des bureaux juste à côté du siège d'En Marche, et pas à l'Élysée. Des conseillers de ministres ont également fait leur valise pour le QG de campagne. Le programme aussi se prépare. Le président a réclamé à ses proches une ou deux propositions fortes. Des cellules thématiques, société civile, jeunesse ont donc été créées pour faire remonter des idées neuves du terrain. Le mouvement des jeunes avec Macron, lui, s'active pour draguer les moins de 25 ans. Et selon l'un d'entre eux, les questions d'identité de genre et de bien-être animal sont très présentes. Enfin, selon nos infos, 500 comités d'élus ont été montés partout en France. Ils se sont réunis il y a 15 jours. Objectif, contacter des entreprises locales et des associations amies pour être prêts le jour J.
Indiscrétion signée Vincent Derosier du service politique d'RTL.
Dans un instant sur RTL, après l'enquête accablante contre le groupe Orpea, accusé notamment de maltraitance sur nos aînés, son directeur se défend sur RTL. Restez avec nous.
Yves Calvi,
RTL Matin.
RTL Matin.
8h11, la suite du journal de Dominique Tenza. Avec cette enquête accablante que signe ce matin Victor Castanet, le journaliste était notre invité il y a quelques minutes. Dans son livre Les Fossoyeurs, il dresse un constat effrayant du fonctionnement des EHPAD.
Et pointe notamment les méthodes du leader mondial du secteur Orpea, témoignages et documents à l'appui. Un système ultra rentable dans lequel les personnes âgées sont rationnées, abandonnées dans leurs excréments, parfois laissées sans soins pendant des jours. La sortie du livre a eu un impact immédiat sur la cotation en bourse d'Orpea, qui a perdu hier plus de 16%. Le groupe dénonce une enquête à charge. Son directeur général, Yves Lemann, conteste les faits racontés dans le livre.
On a toujours placé le bien-être des résidents avant tout autre aspect. 95% des gens considèrent que nous effectuons notre métier très correctement. Il peut y avoir ponctuellement des périodes où on puisse avoir des imperfections. Mais notre engagement, c'est d'y remédier dans les plus brefs délais. C'est plutôt des dysfonctionnements d'organisation. Jamais chez Orpea, nous avons rationné quoi que ce soit. C'est totalement faux. Aucune rationalisation, tous les besoins sont donnés.
Le livre parle aussi du cas de Françoise Dorin qui est décédée dans l'un de vos EHPAD et sa fille vous accuse de dissimulation sur l'état de santé de sa mère. Qu'est-ce que vous répondez à ces accusations ?
Nous allons évidemment mener notre propre enquête interne pour vérifier ces éléments. Jamais nous ne dissimulons quoi que ce soit et nous ferons les constatations nécessaires sur ce dossier.
Des propos recueillis pour RTL par Nathan Bocard.
Il est 8h13, c'est un succès colossal dans l'univers des consoles de jeux. La Switch vient de passer la barre des 6 millions d'exemplaires vendus en France.
Ouais, la dernière console du japonais Nintendo double ainsi la PlayStation 4 de son concurrent Sony. Plongée ce matin dans un secteur ultra concurrentiel qui ne connaît pas la crise, mieux, qui en profite. C'est l'objet de notre brigade RTL. Avec vous Pierre Herbulot, bonjour.
Bonjour, bonjour à tous.
La console a donc été clairement boostée par la crise.
Oui, et en particulier les confinements de l'année 2020, les séjours prolongés à la maison ont dopé les ventes. 1,5 million de Switch écoulés cette année-là. La console représentait à ce moment un moyen de s'aérer, de prendre l'air virtuellement. En témoigne le gros carton du jeu Animal Crossing qui propose une virée sur une île déserte. Depuis, le fabricant japonais surfe toujours sur la vague, au point de doubler en termes de vente la PlayStation au moment des fêtes de Noël.
Et alors pourquoi cette Switch s'en sort-elle mieux que les autres ?
Parce que Nintendo ne se contente pas de cibler les joueurs purs et durs, vous savez, ceux qui s'enferment pour jouer des heures en ligne. Non, c'est un public beaucoup plus large qui est visé. David dirige la boutique de jeux vidéo Full Set à Paris.
Joueur de la Switch, on voit généralement arriver une famille avec des enfants. Après, ils restent toujours dans leur politique. Bon enfant, pas de sang, pas de signes religieux. Et les jeux à multijoueurs sur le même écran. Ce que la concurrence n'est pas capable de faire ou fait moins bien.
Devant les vitrines remplies de jeux vidéo du sol au plafond, le petit Rodrigue a les yeux qui brillent. À 7 ans, il a déjà une console, une Switch, évidemment.
Je la voulais, mais mon père était d'accord aussi parce que c'est toujours bien de jouer en famille et tout ça.
Même la maman qui le garde une semaine sur deux se laisse tenter, alors qu'elle est plutôt du style pas de console.
Il l'a quand même de temps en temps amené à la maison et on a joué à Just Dance ensemble. Voilà les jeux où on peut danser tous les deux. Donc, j'ai quand même déjà participé à celui-ci en tous les cas.
Même les parents s'y mettent. Ah bah donc, oui. ce qui donne ce chiffre assez dingue, Pierre, la Switch est présente, écoutez bien, dans un foyer sur 5 en France.
Oui, et les ventes devraient continuer à progresser avec deux très grosses sorties sur la console cette année. Un nouveau jeu Pokémon en fin de semaine et un nouveau Zelda, licence majeure de Nintendo. Reste une inquiétude pour le groupe japonais, la pénurie de composants électroniques. Elle lui a fait louper quelques ventes à Noël et pourrait bien freiner en 2022 sa belle dynamique.
La brigade RTL sur le phénomène Switch était signée ce matin. Pierre Herbulot, merci Pierre. À l'Euro de handball, les Bleus se relancent avec une belle victoire, 36-27 contre le Monténégro. Prochain match demain soir contre le Danemark. Un nul suffirait à les qualifier pour les demi-finales. Et puis en tennis, on suivra ce matin le match de Gaël Monfils en quart de finale de l'Open d'Australie. Le Français qui affronte l'Italien Matteo Berrettini. Le match a lieu à 11h.
C'était le journal de Dominique Tenza. On vous retrouve à 8h30 et à 9h.